RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Jean Le Bonami, professeur de philosophie, Charles Consigny, avocat, Flora Gebali, chef d'entreprise dans la transition écologique. Voilà nos trois grandes gueules qui sont avec vous comme tous les jours pour discuter, pour prendre la parole au 32-16. La Coupe du Monde a démarré, la prime de match aussi, les amis. La prime de match Coupe du Monde, ça c'est le grand jeu qui est lancé par RMC. Et là vous avez le top départ, 10 minutes pour vous inscrire. La prime de match, elle est à 32 500 euros. Le point de départ de la cagnotte, c'était 30 000 et on rajoute 500 euros à chaque but inscrit. Il y a déjà eu deux matchs. La victoire 2-1 du Mexique contre l'Afrique du Sud. La victoire 2-0 de la Corée du Sud contre la République tchèque. Ça fait 5 buts. On rajoute 2 500 euros. Voilà, on est à 32 500 euros. Pour gagner, il faut vous inscrire en envoyant but par SMS au 732-16. Vous vous retrouverez avec votre numéro de téléphone dans le fichier. Et à tout moment, on peut vous appeler. À tout moment, on peut vous appeler. Et il faut donner le montant de la prime de match. Vous donnez les 32 500 euros. Ils sont pour vous. C'est du gain de jeu, c'est net d'impôt. Si ce n'est pas gagné aujourd'hui, eh bien, chaque but marqué pendant la compétition, la prime de match va grossir. Ça risque de faire un joli pactole. Donc, soyez fidèles à RMC. Écoutez bien, là, c'est 32 500 euros à gagner et vous avez 10 minutes pour envoyer but par SMS au 732-16. Allez, c'est parti pour la suite de nos discussions. Suite de nos discussions qui va nous emmener à parler du montant des charges patronales qui empêchent aujourd'hui les salaires d'augmenter. C'est un sujet qui revient régulièrement dans les GG, dans les grandes gueules, avec la colère des patrons. Et là, justement, c'est un patron qui voulait en parler en direct avec nous. Il s'appelle Jean-Claude Bourrelier. Il est ancien patron de Bricorama. Il est le président de Bourrelier Group. Donc, avoir des salariés par centaines, il sait ce que c'est. Le coût du travail, il connaît aussi. Et justement, c'est à ce propos que dans les GG, dans les grandes gueules, il va intervenir. Et j'imagine que ce coup de gueule, eh bien, vous allez le partager, bien sûr, au 32-16 avec lui, avec vous, soit en tant que salarié d'ailleurs, soit en tant que patron. Ça sera sûrement au cœur de la prochaine campagne pour les élections présidentielles. Mais qui aura le courage de dire la vérité et de baisser ses charges? Jean-Claude Bourrelier, bonjour.
Oui, bonjour.
Ancien patron de Bricorama, c'est votre coup de gueule, vous dites stop, trop, c'est trop aujourd'hui.
Ah oui, maintenant il faut rugir fort parce que depuis le temps j'ai l'impression de ne pas avoir défendu assez l'intérêt de mes salariés. Voilà, on sait que dans une entreprise, après les clients, c'est les salariés les personnes les plus importantes. Et je ne les ai pas assez défendus. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 60, c'est pas hier, on me prélevait 20% sur mon travail. Quand je dis me prélever, charge patronale et charge salariale, parce que pour moi, il n'y a pas de charge patronale. Il n'y a que des charges salariales qui pèsent sur les salaires. Et au lieu de 20%, maintenant, on leur prélève plus que 50%. Ça veut dire que pour un salaire brut dans les années, ils devraient leur verser 3 200, alors qu'actuellement, je ne verse à peine 2000 euros par mois. Donc c'est un écart trop considérable.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors depuis les années 60? Pourquoi est-on arrivé à cet écart aussi important entre le brut et le net?
Eh bien, parce qu'on a empilé un tas de prélèvements. Par exemple, la CSG qui devait durer 2 années est toujours en place.
C'est vrai.
On fait payer aux salariés la politique familiale. Est-ce que c'est normal? On fait payer des cotisations chômage très élevées. Est-ce que c'est normal? Les salariés ne sont pas les responsables du chômage. Les responsables du chômage, c'est les consommateurs, c'est les politiques. Mais c'est seulement les salariés qui payent pour cette politique économique.
Tout repose sur les salaires, en fait.
Tout repose sur les salaires. La taxe d'apprentissage et d'autres prélèvements, ça fait 2%. C'est encore prélevé sur les salaires. Pour les intermittents du spectacle, pourquoi ce sont seulement les salariés qui payent pour les intermittents du spectacle? Les patrons ne payent pas, les fonctionnaires ne payent pas, les retraités ne payent pas. Seuls les salariés payent pour les intermittents, pour le statut des intermittents du spectacle.
Mais à peu près, monsieur Bourlier, ça, on le dit, on le redit, et on ne change rien. Et pourtant, il y a des promesses, des politiques. Si vous allez voir, on va redonner le pouvoir d'achat aux salariés. Pourquoi on n'arrive pas à avancer sur ce dossier?
Ben parce que d'abord, il faudrait faire des économies, et on sait que quand les politiques, effectivement, ils ont un auditoire, ils ont des électeurs, ils veulent pas les contrarier. Donc prendre des mesures difficiles, c'est toujours compliqué, quoi. On préfère laisser les choses se dérouler normalement tant qu'il n'y a pas d'opposition. Mais je crois qu'actuellement, on est arrivé vraiment au bout du système. Et comme j'entends parler qu'il est encore question d'augmenter les cotisations, j'ai dit, mais c'est pas possible, on est tombé sur la tête, quoi.
Restez avec nous, Jean-Claude Bourlier, parce que justement, on va en discuter avec les grandes gueules.
D'accord, avec
Jean-Loup, Charles, Flora, qu'est-ce que vous en dites?
Bah, tout à fait d'accord avec ce témoignage vraiment du terrain de plusieurs décennies accumulées. Alors, juste faire deux remarques. La première, je ne veux pas passer pour un obsédé, surtout devant Olivier Truchot, mais je rappelle qu'avant, dans les années 70, quand Monsieur Bourlier a commencé sa carrière, la France n'était pas dans l'euro, qu'elle avait le franc. Et quand il y avait un problème de compétitivité, par exemple de coût du travail trop élevé, on dévaluait. Et donc, en une nuit, tu pouvais automatiquement, mécaniquement, gagner 15% de compétitivité en plus. Tu envoyais ta monnaie au tapis, ce que faisaient les Français ou les Italiens, tu gagnais automatiquement 15 ou 20% de compétitivité en quelques heures. C'était la dévaluation. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, ce que décrit très bien Monsieur Bourlier, c'est qu'on a un système perdant-perdant, qui est perdant pour le chef d'entreprise qui doit débourser beaucoup, et qui n'est pas compétitif face à ses concurrents étrangers, et qui est perdant pour le salarié. C'est-à-dire que toi, tes salariés, tu reçois 2000 euros de salaire net, c'est pas beaucoup, beaucoup, et ça coûte 4000 euros, et ça c'est vraiment beaucoup, à ton employeur. Donc l'employeur, il est perdant parce qu'il paye beaucoup, il n'est pas compétitif, et l'employé, il est perdant parce qu'il a un salaire net trop bas. Tout ça pour nourrir un État-providence obèse et dysfonctionnel.
Florent.
Moi, en tant qu'entrepreneur, je peux pas dire le contraire. C'est-à-dire que c'est très compliqué de recruter, surtout en ce moment. Le marché est pas au beau fixe dans mon secteur. Et c'est très facile de faire travailler des freelances. Comme ça, on paye pas de charges, on les paye mieux. Mais en fait, tout ça fait qu'on sort du système de protection sociale qui a été pensé après la guerre. Et donc, on est en train de dévier du système. Maintenant, à quoi elles servent, ces charges patronales? Parce que moi, je veux bien qu'on dise on les supprime, mais comment on va financer après, notamment l'assurance maladie, puisque c'est à ça qu'elles servent, les charges patronales, notamment les allocs, les allocations familiales, notamment les retraites, puisqu'elles servent aussi à ça. L'assurance chômage, les accidents de travail, certaines aides au logement et même certains coûts de formation. Moi, tous ces sujets-là, je pense qu'ils sont obligatoires. Maintenant, là où il y a un gros problème aujourd'hui, et personne ne le niera, c'est que ces sujets-là ne sont pas satisfaisants. Les services publics ne sont pas remplis satisfaisants, ne sont pas remplis de manière satisfaisante. Par exemple, si on me disait tu payes beaucoup de charges, mais c'est sûr que t'as une place en crèche, moi j'hésiterais pas personnellement. Sauf que malheureusement, aujourd'hui c'est dysfonctionnel. C'est là que c'est complexe et que c'est intéressant.
Rendons l'argent aux Français. Tu vas nous dire qu'il faut donner encore plus d'argent. Mais moi j'ai rendons l'argent aux Français.
Monsieur Jean-Claude Bourlier, il nous dit, les politiques, ils font ça pour faire plaisir à leur électorat. Puisque ça s'appelle la démocratie. Non. Donc en fait, quand il y a une majorité de Français qui veulent... Je termine une phrase. Quand il y a une majorité de Français qui veulent...
C'est un débat.
Quand il y a une majorité de Français qui veulent être soutenus quand ils sont au chômage, quand ils sont en arrêt maladie ou quand ils sont retraités, il faut un système pour payer tout ça.
Non,
il faut juste être dans un objectif de regarder le réel tel
Oui, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec toi.
Non, je crois que ceux qui élisent les politiques, c'est beaucoup de retraités, beaucoup plus de retraités que de gens qui travaillent. Et donc, les retraités, ils sont pas bêtes. Ils veulent des mesures qui leur profitent avant tout à eux. Voilà. Donc, je pense que, d'abord, il faudrait, comme vous le disiez, être plus efficace, faire des économies. Et d'abord, c'est une des premières mesures. Après, il y a la TVA sociale. Tout le monde a peur de la TVA sociale. Il y a que les politiques qui ont peur de la TVA sociale. Parce que comme ça leur a coûté des places il y a quelques années, ils veulent pas en entendre parler. Pourtant, c'est quelque chose qui est plus juste que de pomper toujours sur les salaires. Voilà, il faut aussi plus de responsabilité individuelle. C'est clair que pour les entreprises, il doit y avoir plus de responsabilité. Par exemple, moi, j'ai des salariés en Hollande. Pendant 2 ans, le coût des arrêts de travail sont à ma charge. Et pour éviter d'avoir trop de charges, eh bien, j'essaie de leur donner les conditions de travail les plus favorables. Ça, c'est de la responsabilité individuelle. Vous croyez pas que les ruptures conventionnelles, c'est un peu abusif? Je crois que là aussi.
Le gouvernement veut d'ailleurs y revenir, enfin, sur les ruptures conventionnelles.
Non, on n'y revient pas. On est simplement passé 18 mois à 15 mois.
Voilà.
Moi, je vous dis pas des salariés qui me disent, moi, je veux une rupture conventionnelle parce que je veux partir à l'autre bout du monde. Non, il faut plus de responsabilités collectives. Les entreprises doivent avoir plus de responsabilités et individuellement aussi. Je veux dire que si je fais un sport dangereux, je dois payer pour mon sport qui est plus dangereux. Mais pas simplement à la marge comme actuellement, mais pour la totalité du risque que je prends. Et il n'est pas normal que ça soit la société qui prenne en charge ces risques supplémentaires.
Alors, Jean-Claude Borrelier, je vous remercie d'avoir été avec nous. Coup de gueule d'un patron. Avant de donner la parole à Charles, on a Manu qui est chef d'entreprise dans le bâtiment de Saône-et-Loire. Bonjour Manu.
Bonjour Olivier.
Vous avez entendu le coup de gueule du patron de l'ancien patron fondateur de Bricorama. Vous êtes d'accord avec lui?
Je suis à 1000% d'accord avec ce que dit Monsieur Borrelier. Et puis je suis aussi d'accord avec ce que dit sur votre antenne Monsieur Montebourg tous les vendredis. C'est des gens qui ont la science économique. Et le problème, c'est que dans notre pays, on a 99% de nos élus qui n'ont aucune science économique, qui ne pensent qu'à leur réélection, qui ne pensent qu'à leur petit parti, qui ne représente que 1% des chiffres politiques. Et ces gens-là ne nous servent strictement à rien. Nous, on souffre. Moi, je suis en déplacement tout le temps, toute l'année. Je fonctionne sur toute la France. Je croise des agriculteurs. Il y en a un qui se suicide par jour. Je croise des petits artisans comme moi. Il y en a 70 000 qui disparaissent tous les ans. Hier, j'étais dans un restaurant routier. Je discutais avec des chauffeurs. Il y a les deux chauffeurs qui étaient à notre table. Ils partent au Canada bientôt, au Québec, parce que ça suffit plus ici. Je discute avec des ouvriers du bâtiment qui, avec 2000 balles par mois, ils font pas la fin du mois. Et à côté de moi, j'ai des ouvriers, encore la semaine dernière, j'ai un ouvrier russe qui est venu me poser des questions parce que c'est un russe qui travaille en France sous contrat moldave. Je côtoie des Roumains, des Polonais, des Slovaques qui, eux, économiquement, font 1400, 1800 balles par mois, mais ils sont royalement payés. Et puis nous...
Ce qu'on appelle du dumping social.
Mais vous ne pouvez pas augmenter vos salariés, Manu?
Mais ce que je veux dire, moi, en ce moment-là, j'ai avec moi un gars, il travaillait en Suisse. Il travaillait en Suisse, il était frontalier. Il faisait à peu près 7000 francs suisses par mois. Il était royal. Il avait une vie royale. Maintenant, il est en France. C'est mort, quoi. C'est mort. Et moi, je peux pas. Vous savez, sur une facture, sur 100 euros facturés, l'État, le système étatique complet, me pompe 70% de ce que je gagne. Donc, mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça que dans le monde, il y a un pays qui vous pompe 70% de ce que vous travaillez, ce que vous suez? C'est impossible, c'est inconcevable. Vous pouvez même pas prévoir l'avenir, vous pouvez pas acheter de matériel, vous pouvez pas dire, demain, ce que je vais faire, parce qu'aujourd'hui, la situation économique, je vais vous donner un exemple. Moi, je travaille sur du bâtiment agricole, bâtiment industriel, où dessus, on pose du photovoltaïque. Le photovoltaïque est posé à 100% par des Européens, et les panneaux photovoltaïques viennent à 100% de Chine. Bon, déjà, ça, c'est de l'argent qui rentre pas dans les caisses françaises. Bon, moi, je suis français, je travaille avec une entreprise française. Mais avant, les contrats, ils étaient signés à 12%, à 12 centimes du kilowatt. Maintenant, l'État s'est rendu compte que les agriculteurs pouvaient faire un petit pécule avec ça. Maintenant, Ils sont tombés à 6 centimes. C'est-à-dire que cette année-là, on a perdu 70% de bâtiments à construire. 70%, c'est place nette. Hein. C'est-à-dire qu'on a perdu un an de travail. Donc, on a des gens...
Donc, l'État tue l'activité au lieu de l'encourager, c'est ce que vous dites. Alors, attendez, parce qu'il y a Charles qui écoutait, mais alors qui buvait vos paroles, mon cher Manu.
Mais effectivement, c'est d'ailleurs une des grandes faillites du macronisme finissant que de n'avoir pas su traiter ce sujet qui est en réalité, à mon sens, l'un des principaux problèmes de la France. Moi, si je, avec tout ce que j'ai donné à l'État, avec les 70% dont a parlé notre auditeur, en vrai, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu m'acheter une maison, hein. Avec tout ce que j'ai donné, j'aurais pu m'acheter une petite maison de campagne, voilà. Et à la place, j'ai versé mon argent pour que Bercy le brûle, si vous voulez.
Non, c'est selon
pour que la justice dysfonctionne.
Ou selon ce que tu avais répondu Jean-Luc Mélenchon, quand tu l'avais dit, c'est Nicolas qui paye, c'est du salaire différé. Ah, c'est-à-dire que tu le retrouveras aujourd'hui à l'hôpital, tu le retrouveras dans les services publics et autres.
Mais pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont débiteurs et créditeurs du système. Il y a quand même 60% des Français, ils ne le savent pas forcément, qui sont créditeurs, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus que ce qu'ils donnent. Ça, il faut quand même le dire. C'est quand même ça aussi l'État-providence. Ouais. Mais il y a 40% des Français qui toute leur vie donneront plus que ce qu'ils vont recevoir. Et ces 40%, ben c'est Nicolas qui paye, c'est ceux qui en ont marre, et pour certains, ceux qui ont envie parfois de se barrer de France.
Donc on a quand même atteint un système qui tient du vol. Selon moi, en fait, c'est du vol. L'État vous vole. Moi, je considère d'ailleurs qu'on devrait constitutionnaliser une règle selon laquelle on ne peut pas prendre à quelqu'un plus de 30% du fruit de son travail. 30%, c'est déjà énorme. Moi, je trouve qu'on devrait plafonner tous les impôts à 30%, tous les prélèvements obligatoires confondus. On plafonne à 30% et ensuite l'État se débrouille avec les recettes qu'il a. Je pense qu'il faut inverser la logique. Aujourd'hui, la logique,
c'est combien j'ai
l'État engage des dépenses dans tous les sens, n'importe comment, pour tous les sujets. Il y a une allocation pour déménager, il y a l'audiovisuel public qui crie au fascisme quand on lui demande de faire des économies, il y a les nos amis contrôleurs SNCF qui ont sont les seuls à avoir eu une dérogation sur la dernière réforme des retraites qui finalement a disparu. Il y a des dépenses en veux-tu en voilà sur absolument tous les sujets, dans tous les domaines. Notre hôpital est l'hôpital de la planète entière. C'est l'hôpital des citoyens du monde. D'où que vous veniez dans le monde, vous pouvez vous présenter à l'hôpital de français avec votre maladie et nos soignants vont vous soigner. C'est quand même une réalité. On n'a pas le droit de le dire parce que si on le dit, tu comprends, on est un beauf, on est un facho et on n'est pas suffisamment, on n'a pas suffisamment le cœur à gauche. Bon, forcément, dans ces cas-là, vous êtes obligé de voler les gens. Vous volez les gens pour que ça tienne. Donc moi, je propose d'inverser le système. On plafonne ce que l'État a le droit de ponctionner sur les citoyens, sur les entreprises, les citoyens, etc. On met 30%, je trouve que c'est beau. Moi, je suis prêt à donner 30%, je trouve qu'au-delà, c'est du vol. Et l'État se débrouille avec ça. Et croyez-moi que là, Jean-Loup, on aurait des vrais changements.
Je remercie Manu d'avoir été dans les GG Jean-Loup Bonamy.
Ouais, les solutions, elles sont simples, elles sont connues. Déjà, en théorie, il faudra avoir notre propre monnaie et dévaluer notre monnaie. Mais bon, comme on ne peut pas, en attendant de récupérer notre souveraineté, ce qu'on peut faire, c'est partir en retraite plus tard. Ouais, tu partirais en retraite comme les Allemands à 67 ans. Déjà, tu paierais moins.
C'est le cas quand même de beaucoup de gens.
Tu paierais moins de charges sociales. Il y a, notre auditeur l'a dit, il y a la TVA sociale, le faire financer par la consommation plutôt que par les salaires et la production.
Le grand combat de droit de bouger.
Voilà, faire des économies et arrêter de distribuer des allocations à tout va. Et Charles l'a dit et a donné plein d'exemples. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent. Elles demandent simplement un peu de courage. Et en fait, le macronisme, depuis le début, n'a aucune volonté de réforme parce que c'est le garant de ce système. Merci. Le macronisme est un produit et un garant de ce système.
Merci à tous, merci à Manu et à Jean-Claude Borrelier d'avoir été avec nous dans un instant. On va regarder justement la manière dont le système peut-être change. D'après Le Parisien, la mairie de Paris va faire facturer la présence de ses policiers municipaux.
Sauf dans le périscolaire.
La police payante pour ou contre, à tout de suite au 32-16, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec Charles Consigny, avec Flora Guevalli et avec Jean-Loup Bonamy. Parlons maintenant de la police municipale. police municipale, c'est ce que nous rapporte Le Parisien. En fait, la mairie pourrait facturer la présence des policiers municipaux dans certains événements.
Oui, avec des tarifs allant de 31 à 90 euros par heure et par agent, pour des événements privés organisés. Alors ça peut être effectivement une brocante, un vide-grenier ou une manifestation avec des VIP et autres. Pourquoi ? Parce que visiblement la mairie de Paris a besoin d'argent et elle voudrait mettre en place ce système de facturation. Alors d'aucuns diront quand même c'est que la police municipale, on la paye déjà puisqu'on paye des impôts, et d'ailleurs des impôts qui ne cessent d'augmenter concernant pas seulement Paris mais à peu près toutes les villes avec la taxe foncière. Donc, est-ce qu'il faut payer deux fois ? C'est la question que je pose. Ou est-ce que c'est normal que quand c'est toi qui organises, tu mets un peu
main ? Ça va être très à la mode maintenant de faire payer deux fois. Il y en a beaucoup que ça démange. De faire payer la justice, par exemple, considérant que si vous saisissez la justice, il faudrait que vous payiez. Si vous avez besoin de la police, il faut la payer. Bientôt, je sais que c'est une idée qui essaime un peu, qui fleurit. On va payer de manière différenciée l'école, la santé, etc., selon ses moyens. Bien qu'on soit déjà tendu, donc on va atteindre, en réalité, à la fin, on atteindra plus de 100% d'impôts.
Alors ça existe déjà à Lyon, à Marseille, apprend-on. Et la loi le permet effectivement. Donc dans ces grandes villes, est-ce que c'est une bonne idée ?
Franchement, mais de toute façon, quand je vois les événements kermesse, brocante, moi je préfère qu'on n'organise pas ces événements. Si on peut se passer
tout ce qui est du lien social, plus Charles Consigny est heureux.
Peut se passer des kermesses et des brocantes.
T'as pas les brocantes dans le Jura, tu fais pas des vide-greniers.
Je déteste ça.
Jamais. Bah, jamais de brocantes.
Non, parce que tu sais ce qu'on vend. Des merdouilles, c'est des kilomètres de merdouilles.
Charles, c'est dommage parce que...
Donc moi, si un jour je suis maire d'une ville, il n'y aura pas de kermesse.
Et si tu es président
pas
de la République...
Pas de brocante. Ah bah, là, c'est à l'échelle du pays.
Ah bah, bien sûr.
C'est pas très libéral.
Tu sais, à l'échelle du pays.
Tu sais qu'il y a une passion brocante en France. Vide-grenier.
Et pas très libéral.
C'est même un problème de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'avant, les gens allaient chiner pour le plaisir d'aller chiner.
Non, mais il y a Le Bon Coin. Les gens n'ont qu'à aller sur Le Bon Coin.
Il y a les vide-greniers aussi.
Pas de brocante. Pas de kermesse.
C'est marrant parce que en fait, Charles, qui a la passion du peuple, en fait, il insulte le peuple quand il dit que la brocante le dérange. Parce que la brocante,
c'est une notion, Flora, que tu ne maîtrises pas.
La brocante, c'est ce
qui s'appelle l'humour. Et vraiment, je ne sais pas comment te dire. Je sais pas quoi faire. Je vais t'offrir des cassettes de Gad Elmaleh, de Raymond Devos, ou des sketchs
de Fernand Reynaud,
ou des sketchs de Guillaume Meurice. Je sais pas quel peut être ton humour, ou même des, j'en sais rien. Mais il faut vraiment que tu intègres cette notion. On est dans une émission de radio. On est tous ensemble. L'émission ne s'appelle pas Jean-Michel Premier Degré. C'est une émission où il y a une part d'humour et il faut que tu arrives à capter cette part d'humour parce que sinon on ne pourra pas faire ces émissions.
D'accord.
Fais un effort.
Moi, ça m'a pas fait rire, mais
détestation de la brocante.
Charles,
il y a un fond de vrai quand même.
Charles, bien sûr, comme dit le proverbe chinois, dans toute blague, il y a une blague.
Charles, il paraît qu'une blague est bonne à partir du moment où elle a fait rire une personne et elle a fait rire Olivier. Donc je te l'accorde. Maintenant, je vais te répondre sur le fond parce que moi, j'adore rigoler quand ça me fait rire. Et parfois, tu me fais rire, ça arrive. Pas ce matin. Sur la question de la brocante, je voudrais y revenir parce que la brocante, c'est ce qui fait aujourd'hui le lien social. Il suffit de se promener un peu le week-end pour voir que c'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on arrondit ses fins de mois aussi, puisque on vend des choses dans les brocantes. Aussi. C'est aussi là qu'on pratique une économie qui est bien plus favorable à l'humanité, qui est l'économie circulaire. Je crois que quand on veut détruire le lien social, on peut avoir des bonnes idées politiques. Par exemple, Charles, il dit pas toujours des choses avec lesquelles je suis en désaccord. 1% du temps, je m'y retrouve. Mais si on veut détruire ce qui fait le sel de la nation, la fraternité,
le
plus important de notre devise, parce que qu'est-ce que l'égalité et la liberté ? Qu'est-ce que la liberté et l'égalité s'il n'y a pas de fraternité au milieu ? Et quand on veut détruire tout ça, en fait, on est juste un ennemi de ce qui fait le sel de la nation.
Pour
revenir à la police municipale, là où Charles Consigny se contredit encore une fois ce matin. quand une collectivité est agile, c'est-à-dire qu'elle va chercher des sources de revenus dans le privé, ça veut dire qu'elle va faire baisser nos impôts, ça veut dire qu'elle va nous ménager.
Mais ils ne le font pas.
Et ben on se réjouit.
Mais ils vont jamais le faire.
En fait, Charles devient un grand défenseur des services publics quand c'est une collectivité de gauche qui ouvre la bouche. Mais ça aurait été une collectivité de droite, il aurait trouvé ça génial. Donc c'est ça qui le paradoxe. Et là-dessus, tu m'accorderas un point.
Non, pas du tout, parce que tu verras que la même collectivité qui fera payer certains services ne baissera pas d'un centime ses impôts. C'est ça qui va se passer, c'est qu'on nous fait payer deux fois.
Moi, j'ai quand même une question. Que quid des manifestations organisées par la ville elle-même? Par exemple, je crois qu'il y a eu une nuit blanche à Paris récemment. Ça, c'est la ville de Paris qui organise.
Et bientôt, on va se taper la fête de la musique.
Là, on a mobilisé la police municipale partout dans Paris. Alors, donc, ça veut dire qu'elle se facture elle-même, la mairie de Paris.
Pour ça que je trouve ça un peu étrange. Quand c'est des événements publics, elle est payée. Quand c'est quelqu'un qui veut organiser un événement privé. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'on a consulté tous les Parisiens sur la nuit blanche? Il y a peut-être des Parisiens qui disent, moi, j'ai pas envie que la police municipale.
En fait, si quelqu'un a prévu de prendre des agents de sécu privés, s'il prend des agents de sécu publics, c'est mieux, non?
Mais là, il va y avoir la fête de la musique. Moi, si je suis élu président de la République, j'interdis la fête de la musique.
C'est le jour saint de ma religion.
Je trouve que c'est un des moments les pires de l'année. Cette fête complètement conne, où des gens rivalisent de nullité artistique et où tout le monde se biture la gueule jusqu'à 4h du mat, si ce n'est davantage. Et ça emmerde absolument tous ceux qui ont le malheur de vouloir avoir une vie normale. Non. Interdiction de la fête de la musique. D'ailleurs, je vais m'assurer de ne pas être à Paris pour la fête de la musique.
Bah, elle est partout en France.
Et moi, la fête de la musique,
je serai retiré dans mon château.
Je crois d'ailleurs savoir que château. Tu ne seras pas là la fête de la musique.
Il y a des chances. Absolument.
Une petite idée.
Absolument. Mais où irait l'argent d'ailleurs récolté en plus pour la police municipale? Est-ce que ça servirait à donner une prime aux agents municipaux, aux policiers, à mieux les payer? Tu vois, Jean-Loup Bonamy, qu'est-ce que tu en dis?
Moi, j'en dis pas grand-chose. Je dis que c'est une extension de quelque chose qu'on a déjà vu. Par exemple, avant, les pompiers enlevaient les nids de guêpes ou de frelons gratuitement. Et maintenant, ils te disent soit de faire appel à une société privée, soit de les payer. Ce n'est plus gratuit. Donc, voilà, c'est une extension. C'est un peu ça qui a inauguré cette logique, en fait, et qu'on voit maintenant se diffuser. Mais écoute, pourquoi... je pense qu'il faut toujours essayer de voir un peu plus loin. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de la police municipale dans ces événements? Bon, bah déjà pour des histoires de circulation classique, voilà, les gens qui ont des malaises, bloquer la circulation, tout ça. Puis une deuxième raison, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. Alors, moi, je pense qu'il faudrait déjà aussi agir sur les raisons de l'insécurité, dont on parlera un peu après, pour que justement, il y ait moins besoin de présence policière dans ces événements. Voilà. Peut-être que si on n'avait pas construit des cités dans toutes les villes de France et de Navarre, y compris dans la plus obscure sous-préfecture, hein, s'il n'y avait pas des quartiers sensibles désormais un peu partout sur le territoire national, peut-être que il y aurait moins besoin de présence policière.
On a Guillaume qui veut réagir. Bonjour Guillaume.
Bonjour les grandes gueules.
Faire payer davantage les sorties de la police municipale, qu'est-ce que vous en dites alors?
Alors nous, au Pays Basque, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fêtes de village. Ça ne va pas plaire à Charles, mais c'est comme ça. Hein. On adore ça.
Mais j'aime pas le Pays Basque.
tant mieux, faut rester sur Paris, Charles.
J'aime pas les Basques, je trouve que vous êtes trop têtus. Un peu faux cul, puis il pleut tout le temps, je sais pas, j'ai du mal.
Exactement, mais il faut rester sur Paris, Charles, ça nous arrange.
Moi, j'adore.
Moi, je vous materai, vous verrez quand je serai à la tête de l'État, ça va moins faire les malins là-bas. Déjà, vous allez vous donner les uns aux autres des prénoms normaux. Parce que les prénoms basques, ça va deux secondes. Hein.
Ça marche pas.
Attention, parce que ceux qui ont essayé de mater les basques, ça se
passe. Allez-y, Guillaume.
C'est vrai. Mais il y a du bon fromage.
Ça fait des années déjà que la police nationale, quand il y a des grosses fêtes de village, nous facture le supplément de patrouille.
C'est quoi le supplément de patrouille?
C'est-à-dire qu'on va la mairie va demander ce qui est plus de patrouille pendant les fêtes patronales, par exemple sur les différentes villes et sur les grosses fêtes on parle. Et à partir de là, c'est la police nationale qui facture. Alors c'est quand même quelque chose de régalien. Donc, il y a quand même déjà la nationale qui facture. Les municipales, elles ne facturent pas parce que ce sont les fêtes de village et les fêtes communales. Mais par contre, la nationale nous facture déjà un supplément. Alors que, elle est quand même payée par nos impôts. Bah oui. Et que normalement, bah oui, elle doit assurer quelque chose.
Ah oui, parce que sinon, sert à quoi la police municipale? Moi, c'est ça, je comprends pas, Guillaume, c'est que si maintenant, dès qu'on demande la police municipale, faut la payer. Mais elle est payée pour quoi, en fait?
Exactement.
Ça devient absurde, alors, en fait.
La municipale, pour nous, elle est présente. Elle va être payée en heures supplémentaires parce qu'ils font plus d'heures. Ce qui est normal. Mais par contre, la nationale, quand on leur demande d'avoir, on va dire, 5 patrouilles supplémentaires ou même 2 patrouilles supplémentaires par rapport à ce qu'on a d'habitude sur la commune.
Et ben, c'est dans quelle ville?
Saint-Jean-de-Luz.
C'est à Saint-Jean-de-Luz, ok, à Saint-Jean-de-Luz.
Nous, on a les fêtes patronales qui démarrent le week-end prochain. Ouais. Et ça dure 3 jours. Et là, en fait, si on demande un supplément de police, et ben, c'est facturé à la ville.
Cette propension qui a toujours faire payer un petit peu plus les habitants quand même. Guillaume, oui, je vous remercie. La bise du côté de Saint-Jean-de-Luz. Je connais pas du tout le Pays Basque. Je suis jamais allé.
C'est magnifique. Je jure.
Non.
Allez, Charles, faites-moi plaisir. Charles, faites-moi plaisir. Restez à Paris.
Invitez-le dans le Pays Basque. Je suis allé dans le Pays Basque où j'ai fait des grandes marches dans la montagne. Et j'ai trouvé ça très beau, merveilleux.
Merci Guillaume d'avoir été dans les GG.
Bonne journée, Guillaume. Et bonne fête.
Facturer les services de la police municipale pour les kermesses, pour les brocantes, pour les différentes fêtes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Vous dites non à quasiment 73%. À suivre dans les GG, le rapport de la Cour des comptes qui dit qu'envoyer les migrants de l'Île-de-France en région, c'est un levier efficace pour désengorger les centres.
Il y aura besoin de beaucoup de police municipale là.
Les centres d'Île-de-France et qu'il faut faire davantage. 32-16 pour en discuter et commenter ça avec les grandes gueules. Il est 11h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, il est 11h15, Flora Gebali, Jean-Loup Bonamy, Charles Consigny. On va parler du rapport de la Cour des comptes sur les migrants qui devraient aller en région. Bon, quand je dis les migrants qui devraient aller en région, j'ai schématisé. En fait, ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est qu'il faut orienter les migrants vers les centres en région pour faire en sorte qu'on désengorge Île-de-France. Alors, ça, c'est le terme employé par la Cour des comptes, c'est de dire c'est un levier efficace, mais insuffisamment utilisé.
La région parisienne enregistre en fait 46% des demandes d'asile. Or, sa capacité d'héberger ces demandeurs d'asile représente seulement 19% du dispositif national d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des places ailleurs, mais ces places sont vacantes parce que tout se concentre autour de Paris et de sa région. Alors, le problème, c'est qu'on a essayé de mettre en place des dispositifs pour que les migrants aillent dans d'autres centres d'accueil un peu partout sur le territoire. François Hollande avait mis en place des dispositifs. Enfin, bon, il existe plusieurs choses. Depuis 2018 aussi, on a remis des choses en place. Bon, mais tout ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, je prends un exemple. Les Pays de la Loire, en 2024, auraient dû accueillir 2445 demandeurs d'asile depuis l'Île-de-France. Eh bien, les Pays de la Loire n'en ont accueilli que 504. Donc, on a beau mettre en place des objectifs chiffrés, on n'y arrive pas. Pourquoi? Ben, parce que le boulot est en Île-de-France et que ces migrants préfèrent rester à Paris en région parisienne pour essayer de trouver un travail de quoi s'en sortir. Est-ce qu'il faut les forcer? Qu'est-ce que vous en pensez?
32-16, Flora?
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs en tension partout sur le territoire, notamment dans l'hôtellerie et la restauration, et ils trouvent pas les personnes. Et dans le même côté, il y a des migrants qui veulent du travail et qui trouvent pas l'employeur adapté. Donc c'est sûr qu'il y a plein de dispositifs à mettre en place pour penser l'intégration des migrants et qu'avant de se demander combien on en accueille, il faudrait se demander qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont déjà là, comment on les met dans un dispositif. Est-ce que, par exemple, s'ils vont travailler quelque part, il faut aussi les loger? Parce qu'il y a aussi un gros problème, il y a une crise du logement aujourd'hui. Je sais que dans les endroits où on construit des EPR, on est en train de construire des logements tout autour parce qu'on ne peut pas construire un EPR avec des milliers de travailleurs qui vont venir si on n'a pas de quoi les loger. Donc, il y a aussi toute une politique d'intégration à mettre mettre en place. Le problème, c'est que en fait, on est quand même dans une crise à tous les niveaux. C'est-à-dire que je vais vous dire ça, vous allez me dire d'accord, mais qui va payer pour ça? Bah, on a plus les caisses sont vides, on n'a pas envie de payer. Oui, d'accord, mais en fait, si les caisses sont vides, on a envie de produire de la valeur, on a envie de produire de la richesse. Donc, on a besoin de ces travailleurs. Même Mélanie, elle est d'accord là-dessus. Donc, on a besoin de ces travailleurs pour créer de la valeur, créer de la richesse. Donc, en fait, il y a le lien privé-public qui ne fonctionne plus. Quelle est la place du privé? Quelle est la place du public pour faire une grande politique d'intégration qui fonctionne?
Jean-Loup?
Alors, moi, je suis un peu...
estomaqué.
Surpris. Et déjà, j'aimerais savoir de qui on parle là. De quel type de migrants on parle? Est-ce qu'on parle des migrants en situation régulière ou est-ce qu'on parle des migrants en situation irrégulière? Voilà. De qui parle-t-on? Bon, ça c'est. J'aimerais qu'on clarifie un peu les choses parce que tout ça recoupe des situations très différentes. Et quand on me dit qu'il faut envoyer des migrants en province, je me base sur mon expérience personnelle. C'est-à-dire que en déambulant dans le centre-ville de Besançon, je croise quand même toutes sortes de livreurs à vélo des nationalités les plus exotiques, c'est-à-dire notamment des Afghans. Je me suis rendu au Havre, en sortant de la gare du Havre, ce n'est pas une plaisanterie, j'ai dû enjamber un toxicomane afghan qui était sur un matelas par terre. Donc, je veux dire, il y a des migrants en province. On me dit qu'à Guéret, également, le nombre d'Afghans qui déambulent dans les rues de Guéret, petite ville sinistrée du Limousin, qui n'a rien à voir, qui n'a pas de lien historiquement avec Kaboul, tu croises aussi des migrants afghans à Guéret.
C'est sûr qu'ils sont afghans.
Donc, oui. Ouais. Tu sais, il y a 100 000 migrants, je te renvoie au rapport Leski, et donc, il y a 100 000 migrants afghans en France. Et avec d'énormes problèmes d'intégration.
Par rapport à ceux que tu dis, j'ai croisé ou enjambé.
Oui, sans difficulté. Sans difficulté. Donc, j'ai dû enjamber un toxicomane afghan dans les rues du Havre. Bon. Donc, on me dit, il n'y a pas assez de migrants en province. Il faut en rajouter encore. Parce que peut-être que...
C'est pour éviter que les centres soient saturés.
J'ai bien compris en Ile-de-France.
Voilà, en Ile-de-France. Que, ce qui permet d'avoir un meilleur traitement humain aussi.
Peut-être que les macronistes, le pouvoir macroniste qui s'étonne de la montée des extrêmes, trouve que ça ne vote pas encore assez pour le RN en province. Et que dans des territoires qui sont sinistrés économiquement et socialement, où le vote RN est déjà très fort, la meilleure chose à faire, c'est de le rajouter une dose d'Afghans, une dose de Somaliens, une dose de Soudanais. Peut-être qu'ils n'ont pas vu les émeutes qu'il vient d'y avoir à Belfast parce qu'un migrant soudanais a égorgé un citoyen dans les rues.
Je ne doute pas que tu ne sois pas mal intentionné. Néanmoins... ne nous exprimons pas à base de doses d'un tel ou d'un tel. Tu vois, on peut. Je suis sûr que tu ne veux pas parler mal de ces gens, mais c'est quand même une manière particulière de parler. Néanmoins, je pense que dans un premier temps, il faut qu'on contrôle notre immigration. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas des dictatures fascistes et qui contrôlent leur immigration. Il n'y a pas de raison qu'en France et en Europe, on soit comme ça complètement incapable et impuissant pour le faire. Moi, je suis pour d'ailleurs des réformes du droit majeures pour qu'on puisse redonner les moyens à l'État de contrôler l'immigration en France. En l'état du droit actuel, on ne peut quasiment pas le faire, en réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut changer ça, changer les règles. Et je n'aurai pas beaucoup de sympathie chez mes confrères avocats là-dessus, mais je pense qu'il faut changer les règles pour redonner des marges de manœuvre à l'État, et notamment pour permettre à l'État français d'expulser de notre territoire les gens qui ne satisfont pas aux règles qu'on aura édictées. Mais une fois qu'on contrôle l'immigration, quand on a sur notre territoire des gens de nationalité étrangère qui effectivement se concentrent dans des conditions souvent terribles en région Île-de-France, on voit qu'on a maintenant quasiment des favelas en Île-de-France. Faut voir ce que c'est. Il y a des gens, ils dorment dans des abris de fortune, sous des tentes,
etc. Il y a des petits campements, effectivement, le long du périph, d'ailleurs, oui. Tu le vois. Oui.
Mais si ces conditions sont si terribles, rien n'empêche ces gens de partir et de repartir dans leur pays.
Oui, Jean-Loup, excuse-moi, mais en général, quand on est afghan, on n'a pas forcément les moyens de repartir.
Et ensuite,
les conditions en Afghanistan, elles te donnent pas forcément hyper envie d'y retourner.
Souvent, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est qu'en général, ce sont des gens qui souvent travaillent dans le bâtiment, les
voilà, pareil.
Public,
non, mais par ailleurs, c'est des gens qui
travaillent.
Donc, mais donc, il n'y a aucune raison de se plaindre de ce qui se passe ici, puisque finalement, ils trouvent que c'est mieux que dans leur pays. C'est
non,
ce que vient de dire Charles. Donc, il n'y a aucune raison de se plaindre.
Mais, j'écoute, Jean-Loup, passe une nuit sous un pont avec eux dans une tente et tu verras si tu trouves aucune raison de te plaindre.
Mais non, c'est mais, pas à moi, c'est pas oui, à moi de donc, mettre en place le dispositif pour m'occuper de ces personnes.
Donc. Ouais, je ne sais pas si on peut complètement raisonner comme ça. À partir du moment, on a des règles, on garde sur notre territoire ce qu'on veut bien garder, on expulse ce qu'on ne veut pas garder. Quand, à partir du moment où tu gardes des gens sur le territoire français, donc notamment des gens qui travaillent, etc., moi je pense qu'il faut quand même faire en sorte que ça se fasse dans des conditions à peu près dignes. On ne peut pas juste détourner le regard en disant c'est leur problème, s'ils n'ont pas compris, ils n'ont qu'à repartir. Il y a quand même un petit dosage, pour reprendre tes expressions, qu'il faut quand même essayer de conduire. Donc moi je ne serais pas forcément hostile à ce que dit la Cour des comptes sur le fait qu'il faut, voilà. Mais, à mon sens, le préalable à tout ça, c'est de contrôler l'immigration. Et mais ça, il faut quand même entendre. Là, pour le coup, ouais, je vais rejoindre Jean-Loup. Il faut entendre le message des Français.
Regarde
là-dessus.
Ce que dit le rapport de la Cour des comptes aussi. Il dit que souvent, d'ailleurs, parce que tu es obligé de demander à ces gens-là, voilà, on va vous emmener dans des centres en province ou dans d'autres départements. Beaucoup refusent.
Pas,
voilà.
Sûr,
ils refusent parce que pourquoi tu irais dans un centre, dans un département où il y a un taux de chômage supérieur à 20 ou à 30%?
Bah oui, là, le travail.
Voilà. Le travail est là. Alors, dans ces cas-là, est-ce que tu les obliges parce que tu soulages le centre quand même? Le problème, c'est de savoir de faire le tri entre ceux qui sont là en situation régulière, ceux qui sont en situation irrégulière ou pas, quoi. Et puis.
Oui, mais après, là, moi, je pense aussi.
Surtout qu'il y a des témoignages pour dire dans les centres, il y a de la violence aujourd'hui.
Bien
c'est
sûr.
Compliqué à,
je,
c'est compliqué
je pense
à gérer.
Que ça fait quand même partie des sujets sur lesquels il faut avoir un peu de courage. En réalité, moi, je ne crois pas à cette histoire d'immigration de travail et à ce que nous disent les gens,
elle est réelle,
surtout
pourtant.
À gauche, non, qui nous est, non, au sens où je ne pense pas qu'on ait besoin de faire venir des gens pour assumer certains boulots. Ça, on n'en a besoin que parce qu'on est une société perfusée d'aide publique et que donc effectivement beaucoup de Français peuvent se payer le luxe de ne pas faire certains boulots, de refuser des boulots et on se retrouve effectivement avec des emplois non pourvus qui ne peuvent être assurés que par des gens qui n'ont pas le choix, c'est-à-dire des gens étrangers souvent en situation irrégulière.
Que l'immigration.
Crois-moi que si on avait un État-providence moins généreux, les Français prendraient les boulots.
Oui, mais l'immigration en un, c'est le regroupement familial, c'est pas le travail. En deux, ce sont les
étudiants.
Et en trois, c'est seulement le travail.
Mais là, on parle pas vraiment de ça, là.
Non, mais je rappelle quand
même. Oui, mais là, on parle pas de ça. On parle quand même sur des migrants qui sont essentiellement masculins, essentiellement peu qualifiés, qui soit ne travaillent pas, soit travaillent de manière non déclarée, par exemple les livreurs à vélo, et qui souvent sont en situation irrégulière. Là, on parle d'immigration irrégulière. Et d'ailleurs, je rappelle que la vocation des gens qui sont en situation irrégulière, par définition, c'est de repartir dans leur pays, puisqu'ils sont là de manière irrégulière.
Okay. Est-ce qu'il faut envoyer davantage de migrants en région? C'est ce que préconise le rapport de la Cour des comptes qui parle d'un levier pas suffisamment utilisé.
Ça va être un non à 80%.
Voilà, on est dans un non à 90%. Dans un instant, la troisième heure des GG, la troisième heure des Grandes Gueules, on parlera des 90 ans des congés payés. C'était 15 jours de vacances en 1936. Aujourd'hui, on est à 5 semaines, plus 11 jours fériés, plus 10 jours de RTT. Alors, est-ce qu'on est allé trop loin dans les vacances? 32-16 pour en parler avec les G, puis on aura le député Modem du Loiret, Richard Ramos. À tout. Pour lui poser une question, que va-t-il se passer d'ici la présidentielle? On a déjà un élément de réponse. Rien. À tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC jusqu'à midi.
Les Grandes Gueules.